original. T'as mis un truc dans ta bouche quoi avant de dire
elle
bonjour.
Mange, elle prend ses petits
déjeuners. Son baguette est un chewing-gum.
C'est un doliprane.
C'est un
doliprane. D'accord, ok, d'accord, ok. Florence, Tanguy Passureau sera tout à l'heure. Monsieur Daniel Morin et nos invités sont Laurence Arnaud, Guillaume de Tonquédec.
Ah oui.
Nous allons parler avec eux de l'affaire Grégory, puisque c'est le sujet de cette affaire française qui sera à partir de ce soir sur TF1 et cependant plusieurs lundis. Il y a deux épisodes par soir qui nous replongent dans cette affaire qui remonte à 35...
30, c'était en 84.
37, donc 37 ans en arrière et qui laisse toujours des traces aujourd'hui.
Avec un rebondissement tous les 10 ans en général.
C'est fou. Puis il y a toujours le synthé, la fiction prend bien la précaution de le dire. Que à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, la fiction s'intéresse plus au côté humain, j'ai envie de dire, que de prendre une thèse en disant on pense que c'est un tel
c'est
ou un tel.
C'est pas une contre-enquête. C'est non, ça. C'est ça.
Mais c'est super bien joué avec un casting de dingue, dont les deux acteurs principaux en invité aujourd'hui jusqu'à midi et demi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme blind test autour de l'affaire Grégory?
La natation.
Toutes les chansons sur la natation.
Oh non,
bonne vanne.
Non,
l'année 84.
Toutes les chansons avec Attache-moi non plus. Ok.
J'adore.
J'adore. Non, moi je peux pas rire avec ça.
Daniel, cœur de rocker.
Yes.
Un caillou.
C'est Julien Clerc qui a tué
ça.
Attends, c'est Julien Clerc le corbeau.
C'est pas prouvé. Présomption d'innocence.
C'est pas prouvé. Mais on a de gros indices quand même.
Quand même énorme.
Un gros indice. Il était où Julien Clerc ce jour-là?
C'est Julien Clerc.
Dans la région.
Il est rentré en studio trempé. Daniel,
Morgan.
I just called to say I love you.
Ah ouais, Stevie Wonder.
Pardon. Yes.
Pardon.
Stevie Richie.
Du coup, on peut pas comprendre Stevie Wonder et Lionel Richie. Là, c'est pas possible.
J'aime bien Stevie, pardon.
Là, notre amitié est en jeu, Morgan.
Je suis désolée.
Ouais.
Donc nous sommes évidemment dans tous les tubes de l'année 84.
Ce que j'avais dit finalement.
Oui, c'est ça.
C'est super facile.
Morgan.
Oh, non, Daniel, non, Daniel, non.
Thriller. Ouais.
L'avantage, c'est qu'on les a tous, hein, mais bon.
Quelle bonne année.
Sans blaguer. 37 ans. T'écoutes ça aujourd'hui, tu dis c'est produit comme un tube d'aujourd'hui
pourrait l'être
de Bruno Mars, de The Weeknd ou autre.
C'est clair.
Puis choisir Michael Jackson pour parler des enfants, je trouve ça bien.
Thriller surtout.
Bravo Nagui.
Service.
Si je pars en service.
Ah bah là, je suis au top en ce moment pour en service. Bah, attention
Daniel.
Leïla,
ne la laisse pas tomber.
Elle va tomber, elle est fragile.
Bah ouais. Mais oui, mais trop tard.
En fait, faut dire son nom et après réfléchir.
Tu dis ça, Florence ?
Non,
réfléchir.
Parce que j'observe la technique.
J'ai arrêté le processus.
T'as arrêté de réfléchir ou donne ton nom ?
J'ai arrêté les deux. En amour, ça simplifie les trucs, franchement.
C'est une belle année quand même, hein. Pas pour tout le monde, mais c'était pour la musique. En tout cas, il y avait quelques tubes.
Morgan,
non.
Karma Caméléon.
Joli. Culture Club.
On dirait qu'il dit chlamydia.
Il y a des gens très bien qui savent chlamydia.
Encore ?
Fanny.
1984, l'affaire Grégory met champion d'Europe de football pour l'équipe de France et en musique.
Ah ouais, c'est un générique.
Non, tout le monde l'a pris comme générique, mais c'est un tube, non ?
Daniel ?
Oui.
Street Dance ?
Exactement.
Et c'est ce que j'allais pas du tout dire, merci Daniel.
Break Machine. Un groupe qui a eu un énorme succès avec cette chanson. Après, ils ont sorti un autre gros succès.
C'est moche.
Ah non.
Et puis surtout,
ils ont pas sorti un truc.
Et surtout l'album.
Ils ont pas sorti un best-of.
Si, alors dans ce best-of, il y avait un inédit. Attention, pour l'instant, carton, 5 points pour Daniel, 1 point pour Morgan, mais le Super Banco peut remporter 6 points.
Banco,
c'est fou, El Banco. Donnez-moi l'interprète, s'il vous
Daniel.
plaît. Quoi,
on m'a même pas entendu.
Attends. Francky Goes to Hollywood, relax.
Non,
c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit son nom et il a laissé le truc continuer. Tu devrais couper le son dès qu'il donne son nom.
Voilà, en tant que rien du tout, j'approuve.
T'approuves qui ?
Merci.
Ce qu'a dit Leïla.
Ah, merci.
Attendez, c'est lequel des deux qui a le pouvoir de me virer ?
C'est le moi.
Ok, Leïla a raison, honnêtement.
Je sais pas, je n'ai pas joué au bluff.
Non,
on va le temps. Daniel a gagné. De toute façon, il avait gagné. Il avait 5 points d'avance, évidemment. Daniel a gagné. Daniel a gagné. Allez, tout va bien. Et merci d'accueillir Laurence Arnay. Et Guillaume de Tonguay.
Ah oui.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Soyez les bienvenus, Laurence et Guillaume. On est ravis de vous accueillir, même si le sujet est un peu triste, mais en tout cas, la fiction, le jeu et l'interprétation sont au rendez-vous de cette affaire française. C'est une, j'ai presque envie de dire, c'est aussi une affaire de famille. Ça aurait pu être l'un des titres de cette série. C'est évidemment une affaire qui a concerné toute la France. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de médias. C'est une affaire humaine.
De justice aussi.
Ouais. Et vous qui avez pratiquement, je ne sais pas si vous êtes la seule Laurence à avoir le seul rôle de fiction dans cette série, parce que tous les autres personnages ont existé.
On est deux, avec Stanley Weber aussi.
D'accord. Voilà. Ah oui, tellement proche.
Ben oui, il faut mettre un petit peu de sexe,
évidemment. Et quand, et quand on veut faire une série, qu'on dit mettons un peu de sexe, on appelle Laurence Arnay. Et vous
Bien sûr, un CV.
et vous interprétez Laurence, justement, une consoeur, c'est l'envoyée spéciale de France Inter.
Exactement, je suis journaliste France Inter. Exactement.
Qui a du mal avec une rédaction un peu masculine, macho.
Oui. Exactement, en fait, c'est ce qui était intéressant dans le rôle, c'est que tout d'un coup, cette fille un peu battante, pleine d'énergie, indépendante, a envie de montrer qu'une femme peut aller, à l'époque, sur le terrain et avoir une carrière dans un univers très macho. Donc voilà.
Oui, et puis elle a même elle initie des idées, elle anticipe le rôle que peut avoir un avocat et l'accès au dossier.
Une fois qu'elle arrive sur place, elle arrive à comprendre comment les combines, parce qu'elle est assez, débutante finalement.
Alors il y a quelques moqueries du style le micro n'était pas branché et ainsi de suite.
Oui, ça
arrive.
Ouais.
Ça arrive à tout le monde.
Et en fait, oui, c'est sûr qu'au fur et à mesure, elle va comprendre comment ça fonctionne et elle va essayer de garder une espèce de droiture. Dans une hystérie médiatique
Ce qui arrive plus souvent, si je peux me permettre, pour l'avoir vécu aussi, je pense qu'on je sais pas toi avec Léna Gra comment tu étais, mais enfin d'abord
c'est
pèse
hyper
un
lourd
âne,
mais
un
c'est atroce.
Maintenant ça pèse rien,
mais à l'époque
quand je suis arrivée sur le plateau, j'ai dit non, moi j'aime bien avoir les vrais accessoires, donc j'étais super piquée quand on a commencé à courir après les bagnoles et je fais putain, je demande autre chose, mets moi de la mousse dedans,
titre. Mais il y a je pouvais pas.
Non, j'allais dire titre.
Oui, exactement.
Mais
double titre.
Le Nagra extrêmement lourd. Ce qui arrivait le plus souvent, c'était pas que le micro soit débranché, c'était qu'on arrive en fin de Bob, parce que le Bob c'était que 15 minutes quand on l'avait à l'épaule et qu'il était dans sa housse portée derrière, on n'entendait pas forcément le. C'est-à-dire que la bande est finie.
Tu le fais tellement.
Fin de bande, on m'appelle. Et ça, c'était les grands moments de solitude en interview. Alors vous interprétez un personnage de fiction, alors que vous, Guillaume de Tonquédec, vous interprétez un personnage clé, puisque vous êtes le capitaine Sesma, c'est-à-dire celui qui va avoir la lourde charge de diriger l'enquête et même carrément d'annoncer la triste nouvelle à Christine Wimas, à sa maman.
Oui, c'est-à-dire que déjà c'est le premier qui a été sur place, représentant de la gendarmerie, donc de l'État, qui a donné l'ordre de sortir le corps des eaux de la Vologne, et puis c'est lui qui a eu en charge du coup d'aller confirmer la disparition et la mort de leur enfant aux Villemain. Et puis c'est lui aussi qui a assisté à l'autopsie en tant, encore une fois, que représentant de l'État, et celui qui a mené l'enquête. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup touché parce que il dit notamment que le jour de l'autopsie, de façon administrative, on a donné la date de naissance de Grégory Villemain et ils sont nés le même jour, pas de la même année, mais ça lui a conféré du coup une forme de responsabilité. Il le dit dans son livre Les deux affaires Grégory, auprès de la mémoire de cet enfant, de dire il faut que je trouve la vérité. lui-même est papa, il a fêté l'anniversaire de son propre fils la veille de l'assassinat, et il dit aussi une chose très intéressante, qui était, là pour le coup c'est aussi le comédien qui parle, il dit heureusement que j'avais l'uniforme, ça m'a permis de continuer à faire mon travail, tellement il était fracassé
comme
et
une protection.
Ému intérieurement.
Voilà,
une
c'est
protection.
Ça.
Donc c'est là c'est une clé du coup pour le comédien, c'était une clé pour moi pour jouer ce personnage qui doit garder ses émotions pour lui, pour continuer à être dans l'exercice de sa fonction.
Mais on, et on voit ses yeux, mais on voit ses yeux quand même, on vous voit dans les yeux, dans l'émotion
oui,
aussi,
je
quoi,
pense
qu'il transparaît.
Peut pas ne pas, ouais. C'est d'abord un être humain et un ouais. papa, quoi. C'est ça qui m'a intéressé. Ouais. Et puis, comment cet homme, parce que nous, on parle de l'affaire, vous l'avez dit, il y a 37 ans, bientôt 40, que ça a eu lieu. Quand on regarde les images d'archives et qu'on remet en perspective que le temps a passé, comment cet homme a réussi dans cet océan de boue humaine à rester droit et à faire son travail,
bah, un peu comme le personnage. On lui posera la question puisque vous n'étiez pas au courant, mais nous l'aurons tout à l'heure en ligne. Ce capitaine qui a fini colonel de gendarmerie, qui est maintenant à la retraite et qui a en effet écrit cette traversée. Et ce combat qu'il a mené, il a des intimes convictions, je pense, on en parlera encore une fois avec lui, mais surtout, ce qui est intéressant, ce que l'on voit au-delà du drame humain, au-delà de la famille éclatée, parce que c'est vraiment une affaire de famille, on s'en rend compte, extrêmement bien documenté, étayé, on sent que il y a eu un travail de recherche, d'investigation de la part des scénaristes, mais qu'il n'y a pas de volonté de prendre des points de vue, c'est plutôt une histoire humaine qui est racontée, c'est mettre en avant justement le côté humain. La seule chose peut-être que je ressens, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, notamment avec votre personnage, Laurent, c'est le rôle des médias, qui c'est peut-être avant même que les réseaux sociaux n'existent,
c'est le lancement de l'info en continu.
C'est
en
ça, et la manière dont l'info, les médias, et même financièrement, rentrent dans l'affaire. On peut pas dire que le reporter d'RTL en sorte grandi de cette histoire ni Paris Match, mais ça devient une affaire de gros sous, de ça paye quand même plus quoi, une mère qui tue, ça quand même ça rapporte.
C'est terrible. On découvre ça vraiment, ça. La course au scoop. Et des journalistes qui signent
super
des
bon
articles
par Michael
avec
Youn, bah, Michael joue journaliste, il le joue super bien.
Ouais. Et ces journalistes-là qui signaient des articles différents sous différents noms pour vendre plus et voilà, ça existait. Il y avait des coups entre eux qui étaient terribles. J'ai appris sur place que certains journalistes, comme la seule manière d'avoir le scoop, c'était d'aller après dans les cabines téléphoniques pour donner l'info à Paris. Ils allaient débrancher toutes les cabines téléphoniques et ils en laissaient une. Qui fonctionnait pour pouvoir être le premier sur le scoop.
C'est fou.
Donc il y a plein d'histoires comme ça et c'est vrai que c'est cette série est intéressante parce que ça pose la question de comment nous consommons les médias aujourd'hui aussi.
Ouais.
C'est très intéressant.
Absolument.
Par rapport à aujourd'hui.
Et comment dans un dossier comme celui-ci on se retrouve avec un juge aussi qui est très très sensible à la notoriété.
Exactement.
Et aux médias parce que c'est-à-dire que
mais qui est pas prêt les... surtout on le voit dans la série.
Ils sont tous très jeunes.
Ouais, c'est Laurent Socaire qui joue de la Comédie Française qui joue le juge Lambert
et très tourné vers la lumière et cette envie de communiquer, de grandir, pensant que c'est une affaire qui va lui servir de marchepied pour la suite.
C'est sa femme qui veut ça, d'ailleurs.
Ouais, c'est ce qui est aussi assez sidérant de voir tout ça réuni, de se dire c'est comme si on avait vraiment toutes les mauvaises étoiles alignées pour cette affaire.
C'est vrai que c'est l'histoire d'un immense gâchis, en fait, cette affaire. Et puis des dérives, il y a beaucoup de dérives au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit les rapports gendarmerie-police.
Celle de Grégory en premier.
Le problème aussi de la presse, en effet, et puis la machination en coulisses pour essayer d'obtenir un scoop sans avoir vérifié vraiment, sans avoir vérifié les informations.
Alors l'affaire judiciaire est un gâchis, la fiction, elle, est plutôt une réussite, et encore une fois, vous pouvez vous dire, ben on la connaît, l'histoire, et on a vu ci, on a vu ça. Oui, le Titanic aussi, on connaissait l'histoire, mais après, il y a la part de fiction qui rentre dedans, il y a le traitement,
exactement. Ça humanise complètement cette histoire.
Le jeu et puis un travail de reconstitution en termes de décors, de fringues, d'images qui passent à la télé, de journaux qui passent à la télé, de jingles radio, tout ça. Enfin bref,
c'était intéressant de replonger dans les années 80.
Une volonté de Christophe Lamotte, quand il en parle très très bien d'ailleurs, le réalisateur, de mettre sa caméra au bon endroit parce qu'on est constamment sur une ligne de crête. Qu'est-ce qu'on peut raconter, comment on peut raconter cette histoire-là sans être putassier, pour employer le mot qui mm-hmm. convient. Est-ce qu'on peut reparler aussi de cette histoire-là? Et il a décidé de mettre sa caméra au bon endroit, d'avoir une délicatesse, la bonne distance pour ne pas en faire du sensationnel.
Rentrer dans la danse de l'époque, en fait, qui était d'essayer de...
À partir de ce soir et jusqu'au 4 octobre, 6 épisodes au total. Ça s'appelle Une affaire française. Laurence Arnay, Guillaume de Tonquédec sont nos invités et on en est ravis. C'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Oh. Voici Morgane Cadignan. Le problème, Laurence, Guillaume, elle ne vous aime pas.
La crevure.
Non, Laurence Arnay, Guillaume de Tonquédec, je vous aime pas. Bon, Guillaume, il le sait déjà, hein, vous êtes déjà venu.
Je le sais, mais ça revient quand même. J'adore quand on
tape dessus. On a un facile, vous et moi, et regardez comment il baisse pas du tout les yeux. D'ailleurs, c'est courageux de revenir, Guillaume, même si retourner sans cesse vers des gens qui nous disent qu'ils nous aiment pas, ma psy a dit que c'est un problème qui vient du papa. Je le fais beaucoup, donc je vous juge pas.
Il nous écoute.
Il y a pas mal de gens qui me disent, Morgane, je t'aime pas. Et trois mois après, dès que j'ai un peu d'actu, j'y retourne. Tac, tac, t'es sûr? Sauf que moi, au moins ici, je tente de faire des vannes derrière. Que Morgane, je t'aime pas et je quitterai pas ma femme, c'est hors de question. Bof. Le ressort comique est pas hyper clair. On comprend pas la vanne, Jean-Claude, à retravailler. Vous venez aujourd'hui tous les deux nous parler d'Une affaire française, une série en 6 épisodes sur l'affaire du petit Grégory qui continue de nous bouleverser. C'est sûr que c'est un rôle un peu moins léger que les précédents pour vous, Laurence. C'est vrai que les Villemains, c'est un autre genre de ch'ti de famille. Il y a un accent à couper au couteau, là aussi, mais également des enfants, apparemment. Donc c'est fou qu'on soit encore fasciné par cette histoire tant d'années après. Tout le monde dit que Paul Mirabel, il a créé un buzz, mais franchement, à côté du petit Grégory, c'est que dalle. Nous, on tente d'aller faire des vidéos à Montreux, mettre des sketchs sur Internet pour faire parler de nous, alors qu'en fait, fallait bêtement être assassiné dans les années 80. On est cons. Ça serait bien, ça nous changerait un peu une affaire sordide dans l'émission pour redonner un petit élan. Tu vois, les gens, ils ont une fascination pour le glauque. Je vais pas rappeler le nombre d'années d'antenne de Daniel. On pourrait facilement se monter un petit truc. Un chroniqueur disparu, enlevé et tué par un autre chroniqueur jaloux qui passait des coups de fil à Laurence Bloch. Mais ça marche pas. Je pense que dans notre milieu, on a tous beaucoup trop d'égo pour être corbeau. Moi déjà, je passe pas un coup de fil, j'écris une lettre et je la signe. Et j'y joins deux invitations pour mon spectacle et une photo. Une standing ovation, c'est bien. Te faire sortir de ton théâtre par la brigade criminelle, c'est mieux. Tremble, Yacine Bellatar. Donc en 2019, Laurence, vous donniez déjà la réplique à Kad Merad dans La part du soupçon sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Ouais. Vous avez ce petit kiff pour les grandes affaires criminelles. Laurence Arnay, tu lui rajoutes de l'arthrose et une moustache, ça devient Pierre Belmar. J'ai lu dans une de vos interviews que un de vos rêves de cinéma, ça serait de faire une comédie musicale. Et ben moi, je peux vous arranger un petit truc. On peut réunir vos deux passions. On peut partir sur un petit Nordal-Lelandais de Boulogne à Broadway pour une saison à Mogador. Moi, je mets des billes. Guillaume, pareil, vous venez de jouer dans Ils étaient 10. Et pardon, mes titres. Chacun ses week-ends. Qui est aussi adapté du roman d'Agatha Christie. Donc, je vais arrêter de me moquer de vous parce que vous commencez sérieusement à me faire flipper tous les deux. D'ailleurs, si jamais un jour vous voulez assassiner quelqu'un, franchement, prenez Florence Mendes. Elle est belge et c'est la dernière arrivée. Bonne émission.
Merci. Et Morgane, on vient t'applaudir du jeudi au samedi à 20h au théâtre Métropole.
Et d'ailleurs, tout court, prenez Florence Mendez, ça lui fera du bien. Pardon,
excusez-moi. Du jeudi au samedi.
Guillaume de Tonquédec, voilà. Laurence Arnay sont nos invités. Donc dans cette série, il y a également, il faut saluer le jeu de Guillaume Guise qui joue Jean-Marie Villemain, ouais. De Blandine Bellavoir qui joue Christine Villemain, qui sont extrêmement justes dans les silences, dans l'interprétation. Ouais. Parce que...
On découvre une histoire d'amour aussi dans cette série.
Oui, parce que...
On met à l'honneur ce couple qui n'a jamais... en fait, on les a vus être instrumentalisés par les médias et enfin, on comprend l'amour et la force qui les lie. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui, c'est quand même assez fascinant.
Et c'est même presque ça, on a le sentiment qu'il les sauve, c'est-à-dire qu'au moment d'une... je ne veux rien gâcher, donc il se passe quelque chose de particulier chez eux, une intrusion à la maison, et ils se battent contre cette intrusion, et cette intrusion se finit justement par un baiser d'amour, et c'est là où on se dit que c'est cet amour qui peut finalement les sauver. On parlait tout à l'heure de l'uniforme du capitaine qui le protégeait, la carapace, la protection, c'est l'amour pour ce couple.
Tout à fait. Ouais.
Et c'est vrai que dans tout le déroulement de l'affaire, a fortiori en accusant d'ailleurs la propre mère, voilà, c'est pas ce qui a du tout ce qui a été mis en avant.
C'est pour ça.
Non, là aussi, c'est le temps qui passe qui permet de vérifier qu'est-ce qui reste après.
Ils ont aujourd'hui trois enfants, c'est ce que la série raconte.
Continuer leur vie, ils sont toujours ensemble et c'est assez admirable et c'est très bouleversant, très touchant, franchement.
Oui, oui, parce que je pense qu'il y a plus d'un couple qui aurait explosé en, en vivant ces drames et surtout ces commentaires, ces ragots et ce traitement des médias. Je voulais également citer, je l'ai fait tout à l'heure, Michael Youn, Laurence Stoker, et évidemment de la comédie française, mais alors...
Le petit juge,
Lambert, Thierry Godard, Michel Villermoz, et également, parce que je l'aime d'amour comme actrice, Anne Benoît, qui est juste
formidable.
Quoi qu'elle fasse, qui est juste, mais elle peut passer au fond du couloir derrière, elle est géniale, voilà. Il y a du monde, parce qu'il y a aussi Gérard Jugnot, il y a Gilbert Mekhi, il y a comme ça des...
Lorena Tellier aussi.
Lorena Tellier qui fait Muriel. Ouais.
Dominique Blanc aussi, qui joue Marguerite Duras. Ouais. Il y a comme ça des... Je ne sais pas si on appelle ça des guests ou des apparitions qui ont plus ou moins d'importance en fonction des épisodes. Quand on vous a contacté pour tourner une affaire française, donc l'affaire Grégory, est-ce que... On a forcément un premier sentiment d'abord de ce que l'on sait ou de ce que l'on a envie de faire en tant qu'actrice ou en tant qu'acteur, et cet appétit est venu immédiatement ou au contraire, il y avait une interrogation de « ça dépend comment vous voulez qu'on nous le fassions ».
Alors moi j'ai toujours, je savais exactement comment Christophe voulait le traiter parce que j'avais déjà fait la part du soupçon avec lui. Donc il est très instinctif, il est toujours juste dans la manière dont il pose la caméra. Donc j'avais pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce qu'on a envie de reparler de cette histoire, et puis j'ai regardé la série Netflix. Et tout d'un coup, le rôle qu'on me proposait, justement, c'était une manière de répondre à cette violence qu'il y a eu autour de Christine et autour du couple. Et donc, du coup, j'avais envie d'interpréter Jeanne Lombardi, justement, pour défendre
cette journaliste,
les femmes.
Défendre les femmes. Et deux, c'est une manière aussi pour vous de dire attention, même encore aujourd'hui, à la manière dont les médias s'occupent de la justice.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a une vraie utilité aujourd'hui. Et c'est très fort, très contemporain encore par rapport à notre... au flux d'informations qu'on a au quotidien et ce qu'on en fait, et voilà, je trouve que c'est moi j'ai plus douté une seule seconde. Après j'ai lu le scénario, j'étais convaincue que c'était, et que ça allait humaniser en effet toute cette histoire
et interpréter quelqu'un qui existe, quelqu'un qui a encore son regard. Ça veut dire que vous avez lu, Guillaume de Tonquédec, le livre du capitaine Sesma. Ça veut dire que vous êtes documenté, que vous l'avez contacté, que vous avez échangé avec lui. Comment travailler un rôle de quelqu'un et comment l'humaniser?
Alors déjà, on n'a pas rencontré les protagonistes de l'affaire, à la demande de la production et du diffuseur TF1, pour que justement aucune piste ne soit favorisée d'une manière ou d'une autre. Pour pas prendre parti. Et ça a été l'une de mes nombreuses interrogations avant de dire oui, parce que je joue quelqu'un, pour le coup, de toujours en vie, qui cherche la vérité, qui a fait son travail. Donc, je me posais la question morale. Est-ce que je peux jouer ce personnage-là, et comment le jouer? Et puis aussi, quel va être le traitement de l'affaire? Est-ce qu'il va y avoir une prise de parti? Est-ce que ça va être quelque chose d'orienté? Et j'aurais pas voulu. Ça va être obscène aussi? Parce que c'est quand même des vraies questions.
Il y a deux manières de prendre parti. Il y a la série elle-même qui, globalement, dans son écriture, pourrait prendre parti pour telle ou telle thèse.
Elle ne le fait pas, heureusement.
Mais à l'inverse, que vous, en jouant le rôle du capitaine Sesma, vous preniez parti pour le capitaine Sesma, là, ça ne devrait gêner personne, puisque
c'est le rôle du comédien, c'est-à-dire qu'il se fait l'avocat de son personnage,
même s'il n'est pas d'accord avec lui
moralement. Il se trouve que, moi, j'étais très, très touché par l'attitude de ce personnage, qui est un gendarme, donc qui vient de l'armée, et qui a des valeurs, lui, dans la vie, qu'il applique à son travail. Et donc, il a été d'une rigueur et d'une honnêteté. C'est ce qui semble, ressortir 37 ans après, et comment il a fait pour résister dans cet océan de boue, pour continuer à rester digne, à faire son travail.
Vous êtes imprégné de ces sentiments.
Je ne peux pas défendre ces positions, en tout cas par rapport à l'affaire. Mais par contre, j'avais besoin, moi, de savoir un peu qui il était, ou de faire un avis sur qui il était. Et comme Christophe Lamotte a mis sa caméra au bon endroit, moi, je devais tout en le jouant, parce que c'est avec ma chair et mon sang, mais c'est prendre la bonne distance par rapport au personnage pour ne pas justement orienter le public.
Tous les deux, vous employez cette expression, il met la caméra au bon endroit.
Oui, parce que c'était assez facile de faire dans l'obscène avec une histoire pareille. Je veux dire, l'histoire est déjà suffisamment obscène, il faut justement que la caméra ne le soit pas non plus. Sinon, il y a un effet de pléonasme qui aurait été absolument insupportable à regarder. Et ouais. si ça avait été pareil dans l'écriture, franchement, j'y serais pas allé. Je pense que c'est pareil pour Lance et pour l'ensemble des comédiens. Et franchement, sur ce tournage, il y avait un grand respect, pareil, c'est ces mots-là qui reviennent, de chacun d'entre nous par rapport à l'affaire. Les discussions, même à table, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé.
Vous avez chacun votre théorie aussi à la fin du tournage, sans le dire maintenant, c'est pas la question que je vous pose, mais...
Nos avis ne sont pas très intéressants, finalement.
Non, ce sont des avis de citoyens aussi, vous ne
sortez
pas.
Oui, mais c'est des avis de citoyens, mais mon avis de Guillaume de Tonquédec, tout le monde s'en fout. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant.
Je voulais pas demander, je vous demande est-ce que vous en avez.
Moi, j'en ai un, bien sûr. D'accord. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la force de la fiction, c'est peut-être que le public qui regardera pourra aussi se forger son avis ou avoir un regard différent en étant plongé dans l'affaire de l'intérieur.
C'était ou se faire un avis sur le traitement aussi.
Oui, oui. Et c'était un dosage très délicat, finalement, parce que le sujet est vraiment dramatique. Les spectateurs ont déjà un rapport avec cette histoire. Et donc sur le plateau, je pense que tout le monde, si on en avait tous, la caméra était pas au bon endroit. si nous on rajoutait un peu trop, il y avait plus de place pour spectateurs, on étouffe quoi dans cette histoire. Donc je pense que voilà, c'était une question de dosage général.
Mais par le choix de créer un personnage qui n'était pas dans la réalité, le vôtre, c'est aussi un parti pris du réalisateur finalement.
Oui, bien sûr. Mais moi, je suis un peu le spectateur en fait dans cette histoire. Donc, j'apporte un peu de bienveillance sur ce couple. Et pareil, c'était important pour moi de garder une distance par rapport à mon ressenti en tant que femme sur l'histoire.
Oui, femme et moderne aussi, ouais. Parce que il y a un regard féminin, il y a un regard moderne, comme si c'était un regard des années du 21e siècle sur les années 80.
De replonger dans les années 80 voilà. Pour aller défendre la femme. Ouais.
Ça s'appelle Une affaire française, cette affaire horrible, cette affaire de famille. Vous la retrouverez tous les lundis jusqu'au 4 octobre sur TF1 et ça commence ce soir. Voici Florence Mendès. Restons calmes.
Mais salut à tous. Alors, j'ai failli arriver en retard ce matin. Je sais pas ce qui se passe sur la route. C'est tout bouché. On se croirait dans une artère de Daniel Morin. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler harcèlement.
Ah.
Ouais. Non, ne vous en faites pas, Leïla. Vous avez eu parfaitement raison de gifler votre assistant. Avec son bac plus 5, vous êtes en droit d'attendre qu'il sache faire le café. Nous n'allons donc pas parler de harcèlement au travail, mais plutôt de harcèlement scolaire, hein, qui peut, on le sait, revêtir différentes formes. Les insultes, les violences physiques, les cours d'allemand. Cette année, cela a commencé sur TikTok, le réseau social qui, comme Jean-Luc Lahaye, touche surtout les jeunes. Mais, je sais, cette référence est vieille. Au moins, elle risque rien. Le hashtag anti-2010 y a fait son apparition, hein, incitant les ados à s'en prendre aux collégiens nés en 2010, généralement élèves en 6e. La 6e, Morgane, vous voyez ce que c'est ? Alors, évidemment, quand on apprend que des gamins maltraitent d'autres gamins en raison de leur année de naissance, la première question que l'on se pose, c'est... pourquoi ? La deuxième aussi. D'ailleurs, voilà, tout cela est parti du jeu Fortnite, hein, rendu soi-disant ringard parce que plébiscité par les enfants nés en 2010, dont les plus âgés critiquent également les goûts. Bon, heureusement, ça a été rapidement pris en charge. TikTok a supprimé le hashtag en question et Jean-Michel Blanquer s'est adressé aux élèves harcelés comme si ceux-ci n'avaient pas déjà assez souffert. Personnellement, j'aurais solutionné le problème autrement, hein, avec la méthode que Françoise Dolto qualifiait de gros taquet dans la face. Je te jure, ce genre de gamin, t'as qu'une envie, c'est de les envoyer jouer dans la Vologne. Non mais c'est vrai, pour qui ils se prennent ces sales petites merdes ? Pardon, non, je dois rester calme, on a dit. C'est juste que le sujet me tient à cœur. Alors déjà parce que j'ai un fils né en 2010, et puis parce que moi j'ai été vachement malheureuse à l'école. C'était l'enfer. J'étais populaire comme une réforme des retraites. Alors, ça vient du fait que j'ai une petite différence. Voilà, c'est pas forcément évident quand on me voit comme ça, mais j'ai un syndrome d'Asperger. Voilà. Alors je te jure, quand j'étais petite, j'étais tellement autiste que pour me punir, il fallait me sortir du coin. Dans les choses qui se voient, j'ai ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire des mouvements répétitifs. Voilà, par exemple, je me balance, surtout quand j'angoisse, c'est-à-dire tout le temps. Voilà. Remarque, ça peut être pratique, hein. Tu me fais bouh au bon moment, une pince plus au téton gauche, une pince moins au téton droit, et je te fournis un petit village en électricité renouvelable pendant deux bonnes semaines, vraiment. Et puis dans mon cerveau, voilà, il y a plein de trucs, hein, parce que je retiens tout, voilà. Donc plein de trucs, mais pas les codes de ma propre espèce. Donc quand je tente d'aborder un mec en soirée, ça donne des trucs du genre « Salut !» Tu savais que le pénis des chameaux mâles, il est inversé pour qu'ils puissent refroidir leur sang en s'urinant sur la jambe?
Ah oui, c'est des bonnes soirées, quoi.
Et en plus, je suis une hypersensible. Je suis une hypersensible. Dernièrement, je suis allée à Amsterdam visiter la maison d'Anne Frank. Bah, évidemment, je me suis mise à pleurer. J'étais là, toute cette souffrance qu'on sent dans ce lieu. Oui, mais madame, ici, c'est le vestiaire. La visite commence là-bas, en fait. Enfin, voilà. Donc, vous imaginez bien qu'avec tout ça, voilà, moi, à l'école, hein, je me sentais aussi bien que Pierre Ninet dans un pogo, d'accord? Qu'une femme voilée dans une sortie scolaire, que Barbara dans la compagnie créole, que la compagnie créole dans Barbara.
Non, pardon. Oh. On s'égare.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à 34 ans, je leur en veux encore aux gamins de m'avoir jeté des cailloux? Oui, mais de pas avoir visé la tête, putain. C'est long quand même la vie. Bon, un jour on m'a demandé, dis donc Florence, pourquoi l'humour? Ben, en fait, c'était ça ou le suicide. En même temps, vous me direz, dans les deux cas, rien ne vaut une bonne chute. Allez, je rappelle tout de même que si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, vous pouvez appeler le numéro 3020 ou contactez-moi. Si c'est drôle, j'en ferai une chronique.
Merci.
Et Florence, on se retrouve tous les mardis à la Petite Loge à partir de demain jusqu'au 28 décembre.
Tout à fait.
Dans la série, il y a des musiques qui nous renvoient justement dans les années 80.
Jean-Jacques Goldman.
Mais qui sont trop tard, c'est fini le blind test. Mais qui sont des musiques qui vont entre guillemets avec la vie, c'est-à-dire on écoute la radio, on monte en voiture, c'est pas spécialement des musiques une bande originale entre guillemets qui pourrait accompagner. Il y en a une d'ailleurs, sauf que la véritable bande originale est la voix du corbeau ou des corbeaux. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Est-il seul et sont-ils plusieurs? Ça fait partie aussi des questions que l'on se pose, où il y a quelques quand même indications qui laissent penser. Je sais pas vous, mais enfin quand on voit la série ou même le doc, on se dit bon, ils sont plusieurs les corbeaux.
Ouais, mais c'est tellement dur cette affaire et c'est tellement flippant. Je sais pas vous, mais même aussi longtemps après, j'ai vu le documentaire sur Netflix, j'ai vu la série et je la regarde à chaque fois. On connaît l'histoire et à chaque fois,
on croit connaître l'histoire.
Ouais, c'est ça.
Je trouve ça terrible.
On cherche encore.
Ouais, c'est toujours aussi angoissant.
La musique dans vos vies, Laurence Arnay et Guillaume de Tonquédec. On va commencer avec vous, Laurence. En 2010, vous écoutiez Hugh Coltman. Get it while you can. It's time for this man. Avant d'avoir en ligne, je rappelle Étienne Sesma, colonel, puisqu'il est capitaine dans les années 80. Il a fini sa carrière en tant que colonel. Nous avons Hugh Coltman. Qu'est-ce que cette musique vous renvoie ?
C'est pas très gay, en fait. J'ai perdu ma grand-mère anglaise qui vivait en Hollande. Et en fait, avec mes sœurs, on écoutait cette musique en rentrant en France. Et c'était un peu la parenthèse de notre vie en Hollande qui se fermait et la perte de l'innocence. Et c'est toutes les paroles de la chanson. Voilà.
Et en 2010, on vous retrouve au cinéma dans L'amour, c'est mieux à deux. Dominique Farrugia à la réalisation, avec Clovis Cornillac, Manu Payet, Laurent Lafitte. Et la phrase qui ressort le plus des interviews sur ce film, c'est « J'étais terrorisée ».
Par qui? Par quoi?
Ouais. J'étais je disais ça
vous avez, dans beaucoup d'interviews, j'étais terrorisée.
Je me souviens pas.
Si c'est pas le
premier
tournage.
Premier tournage, donc j'étais impressionnée.
Ouais.
Mais après, je connaissais Dominique parce qu'il produisait mon spectacle. Donc non, je pense que c'était d'arriver sur un tournage et puis Dominique qui peut s'impatienter facilement sur un plateau.
Ouais.
Et quand il s'impatiente et que ça prend trop de temps, il crie bon, on tourne ou on s'encule.
Ah ouais, voilà. Et dans ces cas-là, on tourne.
Donc on est vite terrorisé.
Ouais.
Quand c'est le premier tournage.
Est-ce qu'on attend de la bienveillance de la part des partenaires, des autres acteurs?
Tout le monde, mais tout le monde a été adorable. Hein. Mais d'ailleurs, je pense que personne ne savait que c'était mon premier tournage. Je l'ai bien planqué. Mais non, c'était une super première aventure.
Guillaume de Tonquédec, vous écoutiez Gainsbourg en 2010.
C'est ok, tu es après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la beauté, le cashbox.
Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans la bande originale de nos invités, c'est que on n'est pas forcément dans une chronologie entre guillemets musicale. On n'écoute pas uniquement les chansons de l'année. C'est la preuve. En 2010, vous écoutez cette chanson. Vous l'avez choisie à cause des paroles, à cause de Gainsbourg, à cause d'autre chose.
À cause de tout ça. Moi, j'adorais déjà Gainsbourg, mais je l'adore de plus en plus. Quoi, son parcours, c'est un vrai auteur. C'est quelqu'un qui a soulevé aussi des sujets de société. J'ai écouté aussi, j'avais, comment dire, je pense à Lemon Incest par exemple, ou à son interprétation de la aux armes, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a pris des parties, ou alors Nazi Rock aussi. Hein, c'est des chansons, voilà.
Ce soit d'énormes tubes au moment où c'est sorti,
non,
mais c'est
un auteur
culte chaque fois.
Il tricote avec sa vie, les paroles.
Et pourquoi le In Out? Pourquoi vous choisissez ce morceau-là?
C'est une histoire de rythmique et tout. J'aime beaucoup j'aime bien les rimes qu'il a écrites et tout. J'aime bien la poésie, puis la musique, et la musique est superbe. Ça, c'est mon côté. J'adore danser. Donc voilà, je danse très mal, mais j'adore danser. Donc là, il y a quelque chose de très entraînant, quoi. D'ailleurs, on a tous hoché de la tête dès qu'on a entendu les premières notes. C'est tellement bien fait.
Et 2010, pour vous, c'est une très belle histoire. C'est le prénom. Prénom sur la scène du théâtre Édouard VII, mise en scène par Bernard Murat. Texte écrit par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. C'est pas juste un succès, c'est un triomphe. Ça commence comme ça, ça remplit, les salles sont remplies tous les soirs. Ça vous conduit aussi au César?
Oui, alors c'était pas attendu pour le coup, parce que moi j'ai accepté une pièce de théâtre. Hein, ouais. Je viens vraiment du théâtre, j'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre pendant 20 ans en sortant du conservatoire, et je tournais assez peu finalement. Il y avait déjà en 2007 Fais pas ci, fais pas ça qui avait commencé, mais pour autant je tournais très peu pour le cinéma. Et tout d'un coup cette pièce devient un film, et chose rare, on garde la distribution originelle pour les comédiens, à part Jean-Michel Dupuis qui a été remplacé par Charles Berling. Sinon on nous garde, et notamment moi qui n'étais pas très connu à l'époque.
Vous auriez mal pris d'être remplacé?
Je l'aurais très très mal pris. Oui, forcément.
Non, parce que vous avez raison de le préciser, ça arrive souvent que
ça arrive tout le temps, même. Ça arrive tout le temps en général. C'est un succès au théâtre, les gens viennent, ceux qui vont vous jouer vos rôles viennent vous voir aussi, et ils vous croisent en coulisses et disent oui, ça va, ouais, bah je suis plus bankable, donc c'est moi qui vais le faire. Raconte-moi comment t'as travaillé le personnage. Enfin bon, c'est comme ça, c'est une loi de beaucoup de notre métier. Donc là, les auteurs qui sont devenus les réalisateurs du film et garder leur distribution originale. Bon, il y a Bruel. Il y avait l'immense Valérie Benguigui, malheureusement disparue peu de temps après les Césars, d'un cancer du sein. Allez faire vos mammographies, faites des tests, les filles régulièrement, les femmes, n'hésitez pas, ça vaut la peine.
Et les garçons,
ça vaut la peine de faire attention.
La prévention, ça vaut la peine.
Et pardon de cette parenthèse, mais c'est important.
Non, c'est important.
Donc on garde la distribution, et tout d'un coup, ça devient un film qui cartonne lui aussi, et chose rare pour une comédie qui est nommée, qui a plusieurs nominations très importantes au César, et on va gagner, Valérie et moi, les Césars des meilleurs acteurs, actrices dans les seconds rôles, donc ça a changé ma vie, très clairement.
Laurent Sarnet, en 2014, vous écoutiez Jamie Colomb. When I look back on my
ordinary. J'aime bien tes choix, Laurent, c'est sympa.
Ah, c'est de la bonne zik, ouais. D'ailleurs,
est en concert là, Jamie Colomb, cette semaine à Paris.
Et ça veut dire que la musique est très présente dans votre vie.
Oui, très présente. Alors, je me suis trompée parce que j'écoutais pas spécialement. Enfin, j'écoute Jamie Colomb tout le temps dans ma vie.
Mais pas ce titre.
Si. Ah. Mais je me suis trompée dans les dates en fait. C'est compliqué de revenir sur des dates, mais bref. En tout cas, Jamie Colomb fait partie de ma vie. Et je l'ai vu plein de fois en concert, et j'adore cet artiste parce que il se met toujours il expérimente les choses. Il va aller jouer dans la rue tout d'un coup, au Sacré-Cœur, ou dans des petites salles de 100 personnes. Il aime le public, et c'est vraiment une bête de scène. Et je trouve que c'est rare aujourd'hui d'avoir un album super et d'aller sur scène et d'aller voir l'artiste en concert et d'être bluffé. C'est pas toujours le cas.
Vous jouez d'instrument, vous ?
Oui, moi je fais du piano et batterie. Je me mets à la batterie là depuis 2-3 ans. Voilà.
Et donc cette musique correspond à 2014, date Leïla, où ?
Du premier rôle pour vous, Laurence.
Oui.
C'est dans la comédie À coup sûr. C'est le premier film de Delphine de Vigan. Donc c'est aussi des belles premières fois.
C'est une vraie rencontre avec Delphine, c'est une très belle rencontre. Et toutes les deux, on a eu un coup de cœur. Elle m'avait vue dans L'amour c'est mieux à deux. Et voilà, je pense qu'elle avait envie de raconter un film qui était un petit peu entre... elle avait un peu le cul entre deux chaises, pour le dire pas très joliment, mais en fait je pense que Delphine avait envie de faire un film un peu fragile, et c'est parti un peu dans une comédie un peu plus populaire, et voilà, et donc du coup je l'ai accompagnée dans cette aventure.
Le thème était la sexualité,
voilà.
Et elle vous envoie un texto le jour de Saint-Valentin.
Saint-Valentin, ouais.
Ah, c'est vrai, je me souviens pas du tout de ça.
C'est vous qui l'avez raconté.
Ouais. Ah ouais, bon, je me souviens pas du tout.
J'avais, moi, tu oublies ta propre vie, et tellement elle est riche, bah, c'est
2014,
normal.
Non, moi, c'est aller, hein.
Bon, quand je fais de la promo, je cherche des trucs un peu sympas à raconter, Saint-Valentin, sexe.
Je suis une grosse mytho, en fait.
Je veux que ce soit raccord.
Mais ça vous gêne, ça vous gêne, c'est troublant de d'être contacté comme ça par quelqu'un.
Bah, c'est hyper flatteur, surtout quelqu'un qu'on admire. Moi, j'avais lu son livre, j'étais très impressionnée. Donc,
elle a écrit le rôle pour vous.
Oui. Et elle me dit, ça fait 2 ans que j'écris le film en pensant à toi.
Donc impossible de refuser dans ces cas-là.
Mais j'avais pas du tout envie de refuser. En plus, il y avait une super bande d'acteurs. Il y avait Eric Elmosnino, Valérie Bonneton, Julia Faure. On était une super équipe. Donc non, j'étais ravie comme tout.
Guillaume de Tonquédec, dans ces années 2014, vous écoutiez...
T'allais pas très bien à ce moment-là, non?
C'est vrai qu'on peut imaginer une scène, enfin une BO de film de quelqu'un seul chez lui... ému ou versant une larme en écoutant ce genre de...
J'adore l'opéra. Mes parents écoutaient beaucoup de musique classique, ils continuent, j'ai la chance qu'ils soient toujours en vie, quand on était petit, mais je savais pas très bien ce que ça voulait dire, devoir sortir des sons d'une enceinte comme ça, et puis mon premier job, ça a été figurant à l'Opéra de Paris, figurez-vous, et donc je me suis retrouvé face à l'orchestre et à des chanteurs sur la scène de l'Opéra Garnier, et je peux vous dire que c'est un moment sensuel, charnel, extraordinaire, quand vous vibrez totalement c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, vous prenez une décharge émotionnelle et sensuelle vraiment incroyable en écoutant le chant. Et j'ai compris du coup l'opéra et pourquoi ça pouvait être bouleversant. Et là, bon, Maria Callas, il y a d'autres très grandes cantatrices évidemment, mais elle fait partie de celles qui vous déchirent le cœur, quoi, qui vous déchirent l'âme. Ouais.
Et à cette époque-là, on vous retrouve à l'affiche de SMS.
Ouais.
Et là aussi, c'est presque un premier rôle aussi pour vous.
Oui, absolument. Ouais, ouais.
Et vous dites à 47 ans, j'ai mis du temps pour attendre, mais c'est pas plus mal.
Oui, parce que je crois que j'aurais pas été prêt avant. J'étais pas fini. J'ose le dire.
Ça veut dire quoi, pas fini?
C'est-à-dire que si le succès ou la notoriété m'était tombé dessus avant, je sais pas comment j'aurais géré. Je sais pas si je gère bien d'ailleurs, mais quand on a un peu de distance d'humour et qu'on a tellement désiré quelque chose et qu'on commence à avoir un peu le cuir un peu tanné, puis un peu de distance, et de conserver son humour face aux événements, c'est quand même mieux.
On
j'étais mieux armé,
mieux,
quoi.
Ouais, ouais.
Par contre, j'apprécie à chaque seconde et je continue. Hein. Je dis toujours merci. On oublie de dire merci. Moi, je dis toujours merci à ceux qui m'ont aidé ou qui, à un moment, j'aime bien dire merci. Ouais. C'est mon côté vieille France.
Est-ce que vous pouvez dire merci à ceux qui vous ont mis aussi des bâtons dans les roues et qui vous ont poussé au dépassement de soi et à l'excellence?
Oui, parce que c'est sûr que c'est dans les moments difficiles qu'on apprend. C'est pas, c'est quand tout se passe bien, finalement, on pense ne pas apprendre grand-chose.
Mais on dit ça
c'est
quand on a réussi. Remercier ceux qui ont mis des bâtons dans
les roues.
Oui,
ça, c'est
oui
sûr.
Mais les moments où on a vraiment coulé, où on a cru que c'était terminé, que ça ne marcherait jamais, ils sont fondateurs aussi de qui vous êtes, en fait, je le pense vraiment. Mais à ce moment-là, vous croyez que c'est terminé. Mais quand avec le recul, si vous surmontez ça, bon,
Laurent Charnay, vous aussi,
oui, je suis complètement d'accord.
Ne tue pas en plus fort. Bah, oui.
En 2015, Laurence, écoutez. Spirit of my silence, I can hear you. Elle est pointue dans ses choix musicaux. Sir John Stevens, Death with Dignity. Comment vous découvrez ces morceaux? La radio, des copains, des copines?
Des copains,
c'est quoi?
C'est Sufjan Stevens. Et oui, on écoute beaucoup de musique à la maison, des amis musiciens, et donc du coup, je découvre Sufjan et il ne me quitte plus.
Très bien, mais il y a du monde dans votre vie entre
Sufjan. Non, Sufjan, c'est une poésie permanente. Il est.
Oui, puis c'est une ambiance, c'est une humeur aussi. Là, est-ce que la musique, ça s'écoute seule d'ailleurs?
Ben moi, j'écoute beaucoup la musique en voiture.
Donc seul.
Quand j'ai des longs trajets, j'adore Sufjan. Hier, j'ai fait 4 heures de voiture avec Sufjan, par exemple.
Très bien.
Et voilà, j'adore ça. Quand
vous n'êtes pas seul, il y a toujours quelqu'un pour vous gâcher le moment que vous adorez dans la
Exactement.
Chanson. Et il va vous parler à ce moment-là. Où il dit, attends, je vais remettre le bon moment.
On est en 2015, Laurence. Vous créez un format court, Les filles d'aujourd'hui sur Canal.
Ouais.
Vous venez de la scène.
Oui.
Et donc, c'était important de revenir sur cette temporalité-là, ce format-là.
Oui, c'est vrai qu'en fait c'était une continuité assez logique de mon spectacle où c'était des portraits de femmes que je filmais et donc du coup j'ai coécrit avec Bertrand Delaire et co-réalisé avec Théodore Bonnet Et c'est super parce que j'ai fait une école de réalisation à Londres en accéléré pour passer derrière la caméra. Et c'est la première fois où je me sens vraiment sur un plateau à ma place. Mm-hmm. Et je me régale. J'occupe tous les postes. Je fais les costumes, presque le make-up. Enfin, on a peu de moyens sur la série. Il faut aller très vite. Je joue avec mon acolyte Jérémy Lopez de la Comédie Française que j'ai rencontré d'ailleurs dans À coup sûr, qui est tu as joué avec lui.
Ouais, merveilleux acteur.
Qui est un ami et un acteur extraordinaire et donc du coup c'est pour moi une révélation. Parce qu'au même titre que le One Woman Show avait été une révélation en 2006 quand j'ai présenté mon premier sketch, faire ma série a été aussi quelque chose de très puissant pour moi.
Et vous mettiez la caméra au bon endroit?
J'espère.
C'était extrêmement drôle. Je tiens à le souligner. C'était pour moi un des meilleurs programmes courts.
Oh, merci beaucoup.
C'était trop bien.
Revenons à une affaire française et à ce rendez-vous que vous donne toute l'équipe d'ailleurs, hein, parce que là évidemment nous parlons énormément avec Laurence Arnay et Guillaume de Tonquédec, mais je le rappelle, Michael Youn, Guillaume Guis, je vais en oublier,
Gérard Jugnot,
voilà.
Lorraine Atelier.
Ouais. Et Gilbert Melki, Villarmoz. Il y a énormément de monde pour parler de cette affaire, Grégory. On a la chance de pouvoir avoir le colonel Étienne Sesma. Bonjour mon colonel, merci d'être en ligne avec nous. Comment allez-vous ?
Bonjour, merci pour votre invitation.
Non, mais c'est la moindre des choses. Vous étiez capitaine dans 84 au moment de l'affaire. Vous avez fini votre carrière en tant que colonel à Marseille, si je me trompe pas trop. Vous avez donc signé.
Oui, c'est vrai.
Vous avez signé les deux affaires Grégory chez Belfond en 2006 pour y raconter vos convictions et votre vision des faits. Tout à l'heure, Guillaume de Tonquédec qui interprète votre rôle dans cette série nous disait qu'il avait été, c'est l'angle qu'il avait choisi, le côté humain, il avait été touché par les signes finalement qui peuvent venir de là où on veut, peu importe. En tout cas, des signes comme la date de naissance, votre anniversaire, la naissance de votre enfance, le fait d'être papa, finalement, quand on fait une enquête comme celle-là, a une importance forcément plus importante que d'habitude. Et l'uniforme vous a protégé, comme il l'a dit ?
D'une certaine façon, mais pas que d'uniforme, hein, parce que j'étais quand même pas tout seul, hein, face à cette affaire. Hein, on était une vingtaine de gendarmes, hein, j'étais pas le seul officier, il y avait aussi un officier qui commandait la section de recherche de Nancy, le commandant Chaillon, pour bien le nommer, qui était un homme expérimenté, qui était dans l'enquête, et puis on était une vingtaine de gendarmes à travailler. Donc j'étais pas tout seul, et puis c'est vrai qu'il y a eu des moments parfois difficiles, hein, je vais les raconter dans mon livre, mais enfin c'était pas le but, hein. C'était pas pour faire pleurer sur ma personne, c'était pour montrer à quel point les idées avaient été faussées à un certain moment. C'est-à-dire que même nous qui avons fait un travail carré, honnête, qui se tenait, la justice nous a d'ailleurs donné raison plus tard, hein, et encore aujourd'hui.
Oui, pas sur le moment même. La justice était.
Voilà. Et même attaquée sur notre honneur.
La justice, sur le moment même, ne vous a pas vraiment écouté au début. C'était d'ailleurs, on le sent, on le voit dans la série. Les propositions viennent de vous. Le juge Lambert est totalement perdu, novice et ne sait pas quoi faire ni comment gérer ce que vous lui proposez. Après, il y a quand même une période qui a dû être pas particulièrement difficile à vivre pour vous, c'est d'être écarté, de ne pas être entendu. Vous aviez l'intime conviction que Christine Wiman n'était pas coupable de l'assassinat de son enfant, et les médias ont monté en épingle cette thèse.
Oui, absolument. Il y a eu deux années qui ont été très difficiles, hein. Les années d'instruction à Épinal. Allô ?
Mm-hmm. Oui, je vous entends.
Oui, je disais, il y a eu deux années très particulièrement difficiles, en 85 et 86, on a senti que l'instruction du Lambert partait vraiment à la dérive. Hein. Mais moi j'avais quand même la foi, l'espoir aussi que les choses reviendraient en ordre et puis que la justice se remettrait dans la bonne voie. Et c'est ce qui s'est passé, heureusement, quelques temps après avec le président Simon à Dijon, auquel il faut rendre hommage.
Est-ce qu'il y a un jour où on connaîtra la vérité,
Et un jour où on ne pense pas à cette histoire, est-ce qu'il y a un jour où vous ne pensez pas à cette affaire?
Alors, ça, c'est une autre question. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que
mais c'est mieux dans cet ordre-là.
Alors, commençons par ça. Commençons par la question de Leïla. Est-ce que vous. Y a-t-il un jour où vous ne pensez pas à cette affaire, Grégory?
Cette affaire Grégory ne me hante pas, j'y pense, parce que j'ai choisi de me battre pour défendre mon honneur, celui des gendarmes qui ont travaillé avec moi, pour participer à un combat pour la recherche de la vérité, en disant ce qu'on avait fait, en disant ce que je savais de cette affaire. Je n'y pense pas tous les jours. Actuellement, bon, je suis très sollicité par les médias. Je vous le veux, même dans des émissions de divertissement comme la vôtre, où on a le sentiment d'être un peu décalé pour parler d'un fait aussi dramatique.
Hein. Bien sûr.
Permettez-moi de vous dire, j'ai pas trop aimé les blagues du début de l'émission. Hein. Permettez-moi de vous le dire gentiment. Je sais que ça fait partie de la loi du genre. Hein. Vous êtes une émission de variété que j'apprécie par ailleurs. Mais je pense qu'on ne peut pas rire de tout quand même.
C'est entendu. Je comprends totalement que vous ayez ce point de vue et je le respecte. Pour en revenir à votre sentiment sur cette affaire, est-ce que la vérité, celle en tout cas que vous avez dans votre cœur, pensez-vous qu'elle puisse être enfin acceptée, admise, entérinée par la justice, où il y a trop de vices de forme, trop de preuves qui ont été négligées, trop de documents qui ont été égarés, toute une lourdeur administrative qui fait qu'à aucun moment on ne dira ce qui semble être la vérité, ou en tout cas ce que je crois avoir compris, c'est que petit 1, il y a plusieurs corbeaux, et petit 2, il y a quelqu'un qui a commis l'acte monstrueux de tuer un enfant.
Bon, c'est sûr que l'exercice de la justice aujourd'hui, il faut quand même souligner la détermination dont elle fait preuve, parce que 37 ans après, il y a encore des magistrats qui se battent pour qu'on connaisse la vérité, parce qu'on la doit à Grégory, on la doit à sa famille, on la doit aussi à toutes les familles qui ont été meurtries dans cette affaire. Mais sa tâche est très très difficile, parce que premièrement, le personnage clé, le personnage désigné comme étant le témoin majeur de cette affaire a disparu. Hein, c'est le cousin qui a été abattu par le père. Et c'est, la justice dit que c'est très probablement cette personne qui a enlevé l'enfant. Elle le dit, elle le répète, mais il a disparu. Donc on ne peut pas lui demander d'explication sur ce geste. Et d'emblée, on est dans une forme d'impasse sur cette voie. Et puis deuxièmement, effectivement, le dossier a été vicié par tout un tas d'annulations de pièces de procédure, par des gens qui ont apporté une pierre majeure à l'édification, enfin à la construction de cette enquête, et qui ont disparu pour des vices de forme. Tout ça fait que la justice a une tâche ardue, mais elle ne baisse pas les bras et elle est convaincue qu'une vérité peut encore sortir. Moi, je ne peux que le saluer et puis espérer qu'une vérité quand même arrive un jour quand même.
Vous pensez que l'assassin du petit Grégory est encore vivant?
C'est un peu délicat d'aborder ce sujet.
Je vous demande pas de citer de nom, je vous demande si simplement vous pensez qu'il est encore vivant.
Personnellement, je ne le pense pas.
D'accord.
Mais ça n'engage que moi.
Très bien.
Moi, je suis un enquêteur. Hein. Moi, j'essaie de m'appuyer sur des faits. Avant d'avoir une conviction, on fait des déductions et puis on arrive à des conclusions. Moi, je m'appuie sur ce que la justice a déterminé. Je sais que la singularité des faits hein, dans cette affaire Grégory, c'est que d'une part, on a une longue période d'activité d'un ou plusieurs corbeaux qui ont agi et qui sont tous les précédents, les préalables au crime. Et puis de l'autre, on a des faits qui se passent de façon très très serrée et précipitée la journée du 16 octobre. Et tout le paradoxe de cette affaire Grégory est là, entre ce long passé et puis cette singularité des faits le 16 octobre, entre 17h et 18h au maximum.
Est-ce que, dernière question, et je vous remercie d'avance, Colonel Sesma, d'être avec nous en ligne, est-ce que vous pensez, quand vous voyez les chaînes d'information, ou le traitement en tout cas dans les médias, de nouvelles affaires, et là on revient en 2021, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une espèce de pollution obligatoire, mécanique maintenant, inévitable, entre les réseaux sociaux, les médias, et certains procès qui se font avant même qu'ils n'aient lieu, mais qui se font devant des caméras et derrière des micros?
Alors, moi, je vous avoue que je ne suis pas un fan des réseaux sociaux, donc je les suis très, très peu. Je sais qu'ils ont une grosse influence aujourd'hui dans tous les domaines de notre vie. Bon, c'est un fait de notre société aujourd'hui. Maintenant, je sais que les médias s'intéressent à cette affaire en particulier. Et ça, je le comprends, parce que cette affaire... est.
Non, non, je parlais de toutes les affaires en général, c'est-à-dire la manière dont...
Affaires en général.
Est-ce que les médias ont tiré la leçon de l'affaire de Pierre Grégory? Parce que c'est aussi ça que montre la fiction.
Quand on voit ce qui s'est passé avec Paris Match, ou avec RTL à l'époque, c'était les médias qui mettaient les juges sur certaines pistes et qui voulaient vendre du papier, comme on dit.
Ah, c'est sûr que les médias ont grandement contribué et profité de la dérive judiciaire des années 85 et 86. Ils en sont à la fois responsables et en même temps les bénéficiaires, hein, parce que on a eu l'impression à un moment que l'instruction se passait dans les journaux.
C'est ça.
Les journalistes étaient informés de certains faits avant même que le juge en ait parlé ou ait eu des résultats, par exemple, de certaines expertises.
C'est là où ça continue.
Situation complètement folle. Et j'espère que le téléfilm saura au moins bien ressortir ce
climat
très très difficile qui de cette époque.
Absolument. Les deux affaires Grégory, le livre signé par Étienne Sesma, capitaine à l'époque en 84, colonel qui a arrêté sa carrière en 2006, date de la sortie de ce livre, Les deux affaires Grégory. Merci, et c'est vrai que l'exercice de cette émission est d'avoir une part d'humeur et une part, j'espère en tout cas, de fond qui vous a permis de vous exprimer sur cette affaire en totale liberté et clarté, en tout cas. Mais merci d'avoir accepté cette invitation.
Mais permettez-moi de vous remercier, ou aussi permettez-moi de remercier Guillaume de Tonquédec, hein, que je ne connais pas, mais pour lequel j'ai une très très grande estime, que c'est un grand acteur, je l'ai vu au théâtre, au cinéma, et je suis vraiment très honoré qu'il joue mon rôle. Alors permettez-moi aussi de remercier pour ses paroles, et de lui présenter tous mes vœux de réussite pour cet exercice très difficile et périlleux que représente un téléfilm sur une affaire aussi sensible, complexe et encore douloureuse.
J'espère que je serai à la hauteur de qui vous êtes, monsieur.
Ouais. Bonne journée, merci colonel Sesma. Bonjour Tanguy Passion.
Bonjour Nagui.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Je vais parler des Australiens, ces pourritures, on les déteste. Ils n'en veulent pas de nos sous-marins, et ben on va les garder. On ne sait pas ce qu'on va faire avec, mais on va les garder.
La bande originale,
bonjour.
Salut, Laurent Schmendel, Tanguy Passion, Daniel Morin, et nos invités, Laurence.
Bonjour.
J'étais très ému tout à l'heure lorsque nous avions le capitaine et enfin ex-capitaine colonel Sesma en ligne, rôle que vous interprétez Guillaume de Tonquédec dans Une affaire française ce soir sur TF1 à 21h05. Ému de dire j'ai pas les mots exacts, mais presque j'espère ne pas vous décevoir et avoir respecté l'homme que vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a
une responsabilité quand vous êtes quelqu'un de vivant et puis qui est sur une affaire irrésolue. Donc il faut moi j'y suis allé en marchant sur des œufs, quoi.
Oui, il y a une responsabilité quand on aime la personne que l'on interprète. Si vous interprétez un criminel,
on a quand même une responsabilité
pas.
Même quand on joue un criminel, d'ailleurs, parce que le personnage, le comédien doit se faire l'avocat du personnage qu'il joue pour essayer de le défendre au mieux. Hein. C'est la moindre des choses. Mais là, c'est vrai que j'ai découvert en lisant son livre, en lisant le scénario, en regardant les images d'archives, et puis en écoutant des interviews qu'il a données, et puis encore celle qu'il vient de donner là en direct,
à laquelle
je ne m'attendais pas. Ouais. On sentait l'émotion, la dignité. Et la droiture, quoi. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup et que je trouve qui a fait son travail au service de l'État, donc de nous tous, et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur ce travail-là, parce que l'enquête n'a pas encore abouti, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché.
Ouais. Mais la manière dont vous le portez dans la série, justement, lui d'abord lui rend honneur. On finit quand même si cette série n'est pas faite pour nous dire quoi penser, chacun son opinion en tout cas.
On se fait son opinion, mais chacun se fera son opinion, mais C'est quelqu'un dont la dignité m'a touché dans cet océan de boue. Et puis, 37 ans plus tard, je vous dis, il continue à me toucher. Il pourrait être une figure exemplaire encore aujourd'hui. Et pour le comédien, par exemple, j'ai regardé dans les images d'archives, il fait une chose, quand il rentre interroger les parents chez eux, il fait une chose qui peut paraître totalement anodine et totalement absurde, ce que je vais vous dire, mais pour le comédien, c'est un détail vraiment fondamental qui raconte beaucoup de choses sur lui. Il prend le temps, tout simplement, d'essuyer ses pieds sur le paillasson. Ouais. C'est un truc qui m'a... J'ai regardé plusieurs fois cette image, on le voit dans le documentaire Netflix. Ça peut paraître vraiment totalement stupide. Hein. Le type est quand même en train de résoudre, d'essayer de trouver un criminel d'enfant. Enfin, c'est, et il prend le temps, c'est deux secondes. Il y a beaucoup de distinctions, de politesse, de
respect,
de respect. Quoi. C'est le mot qui me vient en parlant de cet homme. Quoi.
Une affaire française. Laurence Arnay, Guillaume Tanguedec sont nos invités jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pasturo.
Hier, j'étais plongé dans une mélancolie abyssale, autrement dit, j'avais pas la patate, comme tous les dimanches. Je hais le dimanche, cette journée qui ressemble à Michel Barnier, lente, triste, peuplée de familles à trottinettes et de gens qui brunchent. Le brunch, c'est à la fois un petit déj et un déj, il y a de tout. Café, pain, salade, saumon, confiture, œufs. C'est préparé par des cuisiniers tarés qui ont décidé de foutre dans votre assiette tout ce qu'ils trouvent. Une fois dans la mienne, j'ai eu un pigeon mort et des clés de bagnole. À un moment, un toast a bougé, dessous, il y avait un stagiaire de troisième. Et allez bouffer ça, c'est plein de sébum. Enfin, vous plantez une fourchette dedans, c'est gicle. En plus, dans les brunchs, ils mettent des pignons de pain partout. Et moi, j'en peux plus de cette mode des pignons de pain. Rien que depuis janvier, j'en ai plus bouffé que 17 familles d'écureuils. Tout ça pour vous dire que le dimanche, j'ai envie de me tailler les veines. À l'aide d'un pull lavé avec Lénore, parce que je ne souhaite pas réellement mourir. Et dans ce cas, il y a deux solutions. Un, sortir de la mélancolie grâce à une activité rigolote, comme regarder le replay des années Sébastien sur C8. Deux, s'y complaire en allant encore plus profond dans la déprime. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis donc rendu sur Google et j'ai tapé Jean-Yves Le Drian. Le Drian, c'est ministre des Affaires étrangères. Bon, un breton livide qui dégage la même joie qu'un hamster s'étant pris la patte dans sa roue, les anglophones, il faut le savoir, l'appellent The French Marilyn Manson. Donc là, je tombe sur un article du Monde intitulé « Sous-marin, deux points, Le Drian dénonce une rupture de confiance ». Et je me dis, v'là que Le Drian parle comme chez Darty, si ça se trouve, il y bosse. Mais d'où qu'ils font des sous-marins ? Hein, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai plutôt vu des télés 4K. Hein, je me souviens, elle diffusait LCI, l'émission d'Arlette Chabot, donc j'avais demandé s'il y avait quelque chose de plus récent. Le vendeur m'avait dit « Non, c'est la dernière, elle est super, elle est sud-coréenne. » J'avais répondu pas du tout, je connais Arlette, elle est née à Chartres. Bref, on avait eu du mal à se comprendre. Et cette histoire de sous-marin, c'est une affaire sordide, qui montre qu'on ne peut pas faire confiance aux étrangers. La gauche vous ment, surtout aux Australiens. Les Australiens sont des ordures, la lie de l'humanité. J'espère qu'ils vont tous se faire bouffer par des koalas bigleux qui les confondront avec des branches d'eucalyptus. Les Australiens ne nous ont rien apporté de bien, à part Nick Cave. Et les boomerangs, sans lesquels l'émission d'Augustin Trapenard s'appellerait Rencontre matinale impromptue, ce serait ridicule. Figurez-vous qu'en 2016, on avait vendu à ces crevures 12 sous-marins à propulsion diesel, donc avec une vignette critère 5. Hein, si vous essayez de remonter la scène avec, vous vous heurtez à Anne Hidalgo avec un tuba qui crie « Moi vivante, femme libre, puissante, d'origine modeste, charismatique que je suis, vous ne passerez pas ». Bon, le contrat est alors de 56 milliards de dollars, c'est énorme. Hein. Même Jeff Bezos, quand il va faire une crapette dans l'espace, dépense moins. À l'époque, c'est Le Drian en personne qui refourgue les sous-marins. Les Australiens le voient, se disent « Il n'a pas l'air bien, il va faire une connerie », ils ont pitié, donc ils signent le contrat. Le Drian est alors ministre de la Défense, parce que lui, il a fait tous les ministères. Hein. Je pense qu'il s'agit d'une collection. Il était trop vieux pour collecter les cartes Pokémon ou les MST, donc il s'est dit, les ministères, c'est pas mal. Et là, il y a quelques jours, paf, zut, les Australiens cassent le contrat. Vous, quand vous voulez résilier free, il y a 120 clauses qui vous empêchent de le faire, mais un contrat à 60 milliards, on peut dire non, j'en veux plus, et le foutre dans la poubelle jaune. Donc les Australiens, c'est pourri, ces fils de kangourous à la poche trouée, ont pris à la place des sous-marins de Joe Biden. Lui, sous ses allures de vieux grigou à moitié terminé, est en fait le vendeur du siècle. Il arriverait à refiler un recueil de blagues de pète Jean-Marie Bigard à Bernard Pivot. Pour résumer le dossier, donc, les sous-marins de Biden sont propulsés au nucléaire, ça permet de rester plus longtemps sous l'eau. Les nôtres au diesel, bah, toutes les 400 bornes, faut passer à la pompe. Hein. Alors, c'est au Super-U de Sydney qu'il est le moins cher, mais enfin, il faut mettre le sous-marin sur roulette. Enfin, c'est compliqué. Et pour les Australiens, c'est stratégique. Face à la Chine, ils s'allient avec les Américains. D'ailleurs, les Chinois sont furieux. La Nouvelle-Zélande a dit qu'elle refuserait d'accueillir les sous-marins australiens. Boris Johnson, l'anglais qui se coiffe avec un râteau à feuilles, se réjouit du contrat américano-australien. Lui, depuis qu'il nous a quittés, il jubile dès qu'on se vautre. Hein. Johnson a le même esprit que cet ex qui dit « Ah yes !» quand sur Facebook vous annoncez sait que vous avez une cystite. Enfin, c'est un bordel mondial. Et nous, on se retrouve avec des sous-marins diesel invendables. Si les Verts passent en 2022, ils leur mettront des pédales et ce sera reparti. On débauchera tous les livreurs Uber Eats pour faire se déplacer le bidule. Mais pour l'instant, personne n'en veut. Le Drian est donc encore plus morose que d'habitude. Macron, lui, a rappelé nos ambassadeurs en Australie et aux États-Unis, qui sont revenus d'ailleurs. Hein. Ça marche comme avec les bergers allemands, hein, les ambassadeurs. Une réception à l'ambassade de France à Washington a même été annulée. Il y avait 1000 rochers pralinés de prévus et on a cassé le contrat avec Ferrero. Et nous aussi, si on veut, on peut peser sur les échanges internationaux. En plus, loi des séries, Le Monde hier révélait qu'une visite du président suisse à l'Elysée prévue en novembre a été annulée parce que les Suisses, au moment d'acheter des avions de chasse, ont choisi le F-35 américain plutôt que le Rafale. Hein, mais depuis Biden, nos produits, personne n'en veut. À part les albums d'Aya Nakamura, qui sont aussi des armes létales. Hein. Bon, à l'étranger, on ne vend plus rien. Il va falloir ouvrir une cagnotte Litchi intitulée « Soutenons la balance commerciale de la France par pitié ». Heureusement qu'avec la montée des eaux du réchauffement climatique, l'Australie, ce continent de traîtres, va disparaître. Alors courage, monsieur Le Drian, revenez dans le game. Un contrat de perdu, c'est 10 contrats qui reviennent.
Merci, Donny Bastien.
Et Tanguy, on te retrouve ce samedi au Centre culturel L'Ombrière, c'est à Uzès.
Ce soir sur TF1, une affaire française, Laurence Arnay et Guillaume de Tonquédec sont nos invités. Cette affaire française, c'est à la télé, mais dans la culture, oui. Qu'y a-t-il d'autre ?
Quelle est la particularité du prochain film de Guillaume Canet en tant que réalisateur ?
Comédie musicale. Aussi.
Il est bon.
C'est pas lié au film, c'est lié à...
au casting.
À des impératifs techniques.
Il est en noir et blanc.
Non.
Il est en plan séquence.
Non
Il se fait sans caméra.
Au portable.
Non, ni iPhone.
Il est tourné dans l'espace.
Non plus.
Format carré.
Non. Il est tourné en Bretagne, sur une île déserte.
Ouais. Ah, il fait chaud.
Non, il fait pas chaud.
Il pleut.
Non plus.
C'est filmé par un monsieur
c'est
ivre.
C'est pas lié aux conditions météorologiques ni au lieu. C'est lié vraiment aux contraintes techniques. Qu'est-ce que...
Pas d'électricité si sur
non plus, non.
Pas d'eau.
Un film, généralement, il faut quoi pour le faire ?
Une caméra.
Bon, il faut un peu de temps. Il a été tourné en 4 semaines.
Okay.
4 semaines seulement, pendant le confinement. Pendant le confinement, il est parti avec Virginie Efira, Laetitia Casta, Mathieu Kassovitz au casting.
Sympa le confinement.
Il réalise.
T'as quand même Mathieu Kassovitz au milieu.
Il l'a écrit pendant le confinement.
Le film s'intitule Lui. C'est un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter sa femme et enfant et qui trouve refuge donc dans une vieille maison en Bretagne avec un joli casting en effet.
Le héros du jour, c'est Daniel Morin, tout de suite.
Vous l'avez sûrement remarqué, les amis, d'ici 7 mois, il va y avoir une élection importante, la présidentielle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est candidat, déclaré ou pas ? Soit on fait peur aux gens en leur disant que les étrangers sont à nos portes, prêts pour le grand remplacement. En même temps, c'est vrai. Regardez le nombre de Belges à France Inter. Ces petits salauds ont peut-être inventé la gaufre, mais bon, ça va, c'est pas non plus fou. Hein. Alors, soit tu fais peur, soit tu es gentil. Et c'est quoi être gentil en politique ? C'est donner du pognon. C'est ce que fait Emmanuel Macron. Alors, il paraît que les caisses sont vides, mais là, dans la perspective de l'élection, il nous trouve du fric partout. Le ministre du budget est au bout du rouleau. Chaque fois que Macron prend la parole, il annonce qu'il va filer du blé. C'est pour ça que mon héros du jour est sans conteste le ministre Bruno Le Maire pour son sang-froid. Il doit écouter les discours en panique totale. Alors, suite au Beauvau de la sécurité, discours face à la police. Pour redonner de l'élan à nos forces de l'ordre, j'annonce une enveloppe exceptionnelle de 500 millions d'euros. Mais je les trouve où, ces 500 patates, mon Dieu ? Je suis à sec, bordel, à sec ! Oh, je me prends un Doliprane, moi. Discours face au monde agricole. Pour relancer le secteur, je promets aux agriculteurs une aide annuelle de 600 millions. 600 millions ! Mais il m'a pris pour Lionel Messi, ce con. Je les ai pas, les 600 millions. Je les ai pas, mais pas du tout. Putain, vite, un Xanax. Discours suite à la visite de 3 jours à Marseille. Et c'est pour ça que je vais mettre à disposition pour la ville de Marseille une enveloppe de 1,5 milliard d'euros. Quoi ? Ça y est, on parle plus en millions, on est en milliards. Mais comment ça, 1,5 milliard d'euros ? Je le trouve où, ce milliard et demi, putain ? Bon allez, je me roule un joint. Et aujourd'hui, 20 septembre, Emmanuel Macron rencontre une délégation de harkis pour ouvrir le grand chantier de la réparation. Bruno Le Maire l'a écouté tremblant, en sueur, accroché à sa bouteille de poppers.
Merci. The Artist, c'est samedi soir à 20h40. 9 artistes vont venir présenter leur création originale et les 10 premiers sont passés sur France 2 samedi soir.
Ce samedi avec...
Il est temps de le rappeler parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vu, voilà. Donc c'est important de le préciser.
Ils étaient 10 et ils ont commencé cette émission en fanfare avec Trio et la reprise de l'hymne de nos campagnes.
Trio parce que Christophe Maly était dans le jury.
Absolument. Alors qui a décroché au cours de cette soirée la meilleure note du jury ? Eh bien c'est Fiskara.
Les gens de mon âge, ils font pas ce que je fais. Ils vont quelque part, j'aimerais bien savoir où c'est.
Un vrai carton, puisque Christophe Maly lui a mis 10 tout simplement. Et qui a décroché la meilleure note du public ? Eh bien c'est Joseph Kamel. Parmi les 10 candidats présents, il y avait aussi Anissa Altmaier, qui a fait danser tout le monde et aussi qui a eu une belle surprise puisque Christophe Maly du membre Trio lui a fait une promesse.
Il y a du soleil, on a envie de te voir en live, on a envie de voir un concert de toi entier, on a envie de danser avec toi. Et voilà, moi c'est ce que j'attends d'un artiste. J'ai eu l'occasion en plus d'écouter un petit peu ce que tu faisais en dehors et j'invite les gens à aller écouter les autres chansons parce qu'il y a des trucs absolument incroyables. Oh Anissa, je vous veux en première partie de Trio.
Oh, carrément.
Je vous veux.
Il y en a une qui n'a pas perdu sa soirée, donc ils étaient 10 au départ et à la fin de la soirée, il n'était plus que 7. Et j'ai une tendre pensée pour les 3 artistes que j'aime beaucoup qui sont partis. C'est Valentin, ouais. C'est Colin Capel et c'est Aïdji. Je les embrasse parce qu'ensemble, on fait des masterclass tous les soirs
tous les
sur Culture Box.
Sur le canal 14 de la TNT, Leïla Kadour-Bodedi accueille déjà tous ces jeunes artistes, ouais. Plus des professionnels, des mentors. Alors, il y a eu Boris Berman, il y a eu Trio, Clara Luciani et maintenant c'est le tour
et ce soir c'est Claudio Capeo.
Très bien, puis voilà. Il y aura Vincent Delerme,
il y aura Gaëtan Roussel,
Pascal Obispo, Patrick Bruel, c'est ça, qui viendront donner, transmettre. Non, il n'a pas le droit parce que contractuellement, il est un peu pris ailleurs. Voilà qui est dit. Et encore une fois, petite parenthèse d'animateur. J'ai bien retenu la leçon de l'erreur commise lors du premier prime. Nous avons rattrapé, ouais. Je pense en tout cas, artistiquement, cette erreur samedi soir. On a bien rempli la salle pour faire un concert, mais pas assez pour faire de la télévision. Donc, je vous assure, on a bien écouté vos commentaires, retenu la leçon, et je vous promets que samedi prochain, vous aurez droit à un très beau spectacle avec notamment justement Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Benabar et les Black Eyed Peas qui viendront interpréter aussi des titres avec ces jeunes artistes. Masterclass ce soir 20h, Canal 14, Leïla Kadour Boudadi. Oui. Parlons à nouveau de cette affaire française sur 3 lundis. Ça commence ce soir à 21h, mais dans vos vies artistiques, il y a 8 rues de l'humanité dont j'aimerais que nous parlions un tout petit peu. Laurence Arnay, avec Danny Boone.
Oui, le prochain film de Danny Boone qu'on a coécrit pendant le confinement. Voilà, sur,
et déjà tourné et déjà prêt à sortir.
Déjà tourné et ça sort le 20 octobre sur Netflix.
Et
voilà.
Pourquoi uniquement sur Netflix alors que...
Parce que c'est un sujet international et on s'est dit que c'était plus juste de le sortir sur une plateforme qui touchait tout le monde.
Mais c'est sur du voisinage.
Oui, c'est un immeuble parisien. C'est des 12 habitants qui sont confinés dans un immeuble parisien. Voilà. Et donc ils vont apprendre à vivre ensemble. Et on respecte un peu toutes les étapes qu'on a traversées, nous aussi, pendant le confinement. La peur de l'autre.
Oui, l'évolution des relations aussi entre les uns et les autres.
Pour aller jusqu'à la découverte. Et c'est un film qui parle aussi de cette situation extraordinaire qu'on a tous vécue, mais qui met pas mal d'optimisme aussi. Donc je pense que c'est une bonne comédie qui rend hommage à cette pandémie.
Et Danny a mis la caméra au bon endroit ?
Je pense, oui. 8 en termes de comédie, il la met bien, généralement.
8 rues de l'humanité à partir du 20 octobre sur Netflix. Ouais. Guillaume, vous êtes à l'affiche de Délissure. On en a parlé à ce micro parce qu'on a adoré ce film, tout comme votre prestation, évidemment. Vous serez dans Germinal aussi, que j'ai eu la chance d'avoir déjà vu, qui va passer sur France 2, qui est une... Évidemment, c'est la grande saga, c'est le livre, c'est l'incontournable, mais filmé, réalisé, joué comme un thriller actuel, puis on y trouve beaucoup d'échos dans aussi nos rapports dans la société aujourd'hui.
Oui, il y a tellement de choses à dire sur cette série. D'abord, le réalisateur David Ourek, qui est un vrai passionné, passionnant, un vrai dingue, un meneur d'hommes, parce que quand on lit les descriptions de Germinal, c'est bien gentil, mais la mine s'écroule, l'eau monte, les gens commencent à se noyer, les femmes accourent pour essayer de retrouver leur mari, leurs enfants, etc. C'est saisissant sur le papier, mais pour le faire à l'image, il faut vraiment avoir une maîtrise de la mise en scène incroyable. C'est le cas de David. Et puis, le point de vue du scénariste, Julien Lilti, il a dit, c'est super d'avoir 6 fois 52 minutes, parce qu'il peut explorer beaucoup de passages du roman, et il a ajouté un petit côté presque western à dessin.
Ouais.
Il a dit, c'est pas parce que c'est moi qui dis ça, mais c'est pas parce que c'est une œuvre classique qu'il faut le prendre avec des pincettes et raideur. Au contraire, ils se sont tous emparés de la réalisation de ce film pour donner un regard d'homme du 21e siècle sur l'œuvre de Zola, en disant la meilleure façon de rendre hommage à un grand classique, c'est de la moderniser dans le bon sens du terme.
C'est pour ça que je parlais aussi des échos que l'on trouve dans les rapports dans la société, des mouvements de grève, des conflits.
À l'évidence, tout est déjà contenu. Et puis la place des femmes aussi, qui a été un peu développée dans la série. C'est passionnant.
Et cette série a déjà reçu le prix du public au festival Sérimania de Lille. Ouais. Vous-même, vous avez été d'ailleurs président du jury, pas de ce festival pour vous remettre le prix, mais
de
la fiction de La Rochelle qui s'est
terminé.
J'ai
créé
là,
le prix de la comédie là-bas qui n'existait pas. Je suis très fier de ça et très fier de ce jury.
Une affaire française, c'est ce soir sur TF1, l'affaire Grégory, avec le point de vue plus humain, cette dimension humaine, et puis le rapport entre les médias, le rôle des médias est quand même très présent, saute et frappe quand on voit cette série. Et on peut se poser aussi des questions sur la rapidité avec laquelle nous-mêmes, d'ailleurs, puisque maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on se retrouve tous presque membres d'une espèce de jury populaire dont on doit se méfier, et très rapidement ne pas prendre forcément des positions ou être trop sûr de soi ou s'arrêter aux premières informations que l'on peut entendre, mais plutôt avoir un peu de recul. Je pense que c'est l'un des enseignements à tirer. Après, vous ferez votre idée face à l'interprétation de Laurence Arnaud, Guillaume de Tonquédec, Guillaume Gouix, Blandine Bellavoir, Michael Youn, Laurence Tocqueur de la Comédie Française, Gérard Jugnot, Thierry Godard, Michel Villermoz, Anne Benoît, enfin du beau monde pour cette série ce soir sur TF1. Des excuses à présenter, Daniel Morin ?
Désolé pour tous les acteurs qui reprennent des rôles de théâtre au cinéma. Vous avez entendu Guillaume de Tonquédec. Vous êtes des crevures. Alors, désolé pour tous les réalisateurs qui ne mettent pas la caméra au bon endroit. Bande de minables, vous n'avez aucune dignité, vous êtes des nazes. Mettre la caméra au bon endroit, c'est la base, nos invités l'ont dit aujourd'hui 317 fois. Désolé pour Nicolas Demorand, Thomas Legrand et tous les lascars de la rédaction qui ont cru que Laurence Arnaud rejoignait France Inter. Les mecs, c'est de la fiction, vous avez acheté des habits neufs pour rien. En revanche, j'ai Guillaume de Tonquédec qui rêverait de travailler sur Inter, il voudrait animer La Valise. Ne lui dites pas que c'est sur RTL.
Merci Laurence Arnaud.
Merci
Guillaume de Tonquédec. Passez une très bonne journée sur Inter. On se retrouve demain avec Arnaud Ducret. Et la bonne journée continue avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
À demain.